6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
La question du jour avec Aliette Ovine. Bonjour Aliette.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Et ce matin donc, direction la maternité.
Oui, enfin pour peu qu'elle soit toujours ouverte. Et si vous comptiez vous rendre à Die, à Saint-Claude ou encore à Ganges, mieux vaut passer votre chemin, puisque leurs portes sont désormais fermées. Ainsi, de fil en aiguille, la France a vu les trois quarts de ses maternités disparaître en l'espace de 50 ans. Une dynamique qui n'est pas prête de s'arrêter, puisque la Cour des comptes a publié un rapport lundi qui préconise de se pencher sur la pertinence du maintien des plus petites d'entre elles, pour des raisons que nous allons tenter de comprendre avec vous. Hugo Pilkington, bonjour.
Bonjour.
Hugo Pilkington, vous êtes géographe de la santé, professeur à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, membre du laboratoire LADIS et également membre du Haut Conseil de la Santé publique. Alors il faut bien se rendre compte de la carte sanitaire dressée par les maternités en France. Combien en compte-t-on aujourd'hui sur le territoire pour combien de naissances par an, Hugo Pilkington?
Alors, à la dernière enquête nationale périnatale, qui reste une référence en la matière, il y avait 462 maternités en France, dont 6 maisons de naissance. J'ai regardé les chiffres de l'INSEE, fin 2022, il y a à peu près le même nombre de maternités. On compte un peu moins de 700 000 naissances en France à l'heure actuelle, pour une réduction du nombre de naissances de l'ordre de 5% sur ces dernières années. Normalement, on est autour de 800 000 naissances, hein, quand même.
Oui, je crois qu'il y a eu un gros décrochage,
oui, gros décrochage.
Entre 2022 et 2023. Ouais. Parmi ces maternités, il faut bien distinguer quatre catégories qui sont numérotées de 1 à 3 en fonction du niveau de soins proposé. Comment ces dernières se répartissent sur le territoire en fonction de ces critères? Où se trouvent par exemple les maternités de catégorie 1 et celles de catégorie 3?
Alors, il faut bien voir à quoi servent ces catégories. Alors, ça date d'un décret périnatalité de 1998 et qui veut hiérarchiser et structurer le recours aux soins. Et donc, les maternités de niveau 1, qui sont largement les plus nombreux, sont des maternités qui prennent en charge des grossesses à bas risque, des grossesses qui ne présentent pas de problème. Les maternités de niveau 2 et 3 sont consacrées alors soit à des grossesses pathologiques, soit à des grands centres où il y a également des unités de réanimation maternelle et néonatale. Et ce sont de loin les moins nombreux, mais qui concentrent énormément de naissances et qui sont concentrés dans les zones urbaines.
Vous parliez du décret justement de 1998. Oui. Ce même décret réglemente très fortement l'organisation de ce paysage des maternités. Depuis donc 1998, si une maternité ne procède pas à au moins 300 accouchements dans l'année, c'est la fermeture. Pourquoi une telle décision, Hugo Pilkington?
En tout cas, c'est la recommandation. C'est-à-dire que depuis les années 1970, on s'est aperçu que finalement, les maternités dans lesquelles on pratiquait peu d'accouchements, il y avait des risques pour la mère et pour l'enfant. Et donc, on a souhaité, à partir de l'année 1972, au moment de l'apparition du décret d'Yenech, fermer les toutes petites maternités, c'est-à-dire celles qui font moins de 15 naissances par an, ce qui était peu. Au fur et à mesure de la mise en place de ces fermetures, on s'est aperçu que le seuil de 300 était un seuil à partir duquel les risques étaient moindres, puisqu'on estimait que les professionnels avaient plus d'habitude de faire des accouchements.
Et on comprend bien justement que quantitatif et qualitatif sont les deux jambes sur lesquelles doivent essayer de marcher les petites maternités en France. Et c'est d'ailleurs ce qui a retenu l'attention de la Cour des comptes dans le rapport publié lundi, qui pointe le fait que la France se situe au 22e rang sur 34 pays européens en matière de mortalité néonatale, c'est-à-dire les 28 jours suivant la naissance du bébé, avec un taux de 2,7 pour 1000 nouveau-nés. Des chiffres qu'elle met en parallèle avec ce constat, la situation présente ne répond pas aux exigences de sécurité optimale ni d'efficience dans l'organisation. Peut-on imputer ces chiffres finalement de mortalité infantile à la qualité des soins prodigués dans les maternités françaises, Hugo Pilkington?
Honnêtement, non. Le problème de la mortalité néonatale, qui est la composante la plus importante de la mortalité infantile qui est mise en cause et pour laquelle la France accuse un retard important par rapport à des pays comparables. Alors, on reste à des niveaux très bas, quand même, dans le monde, en France.
Il ne
faut pas non plus être trop alarmiste. Est dû au fait d'un certain nombre de facteurs qui se conjuguent, comme énormément d'événements de santé, les inégalités sociales, l'augmentation des taux de prématurité, les augmentations des facteurs de risque lors de la grossesse, et... Bon, je ne suis pas clinicien, bien évidemment, mais je n'incriminerai pas la qualité des soins prodigués dans les maternités. Ça, le problème de la mortalité infantile, et tout spécialement la mortalité néonatale précoce, c'est-à-dire dans les 7 premiers jours, reste un problème à investiguer.
Et du reste, le rapport de la Cour des comptes ne fait pas le lien direct. En tout cas, voilà, corrélation ne vaut pas causalité. En revanche, certains syndicats, et notamment c'est le cas de Michel Leflon, président de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, pointent plutôt une volonté de faire des économies. Hugo Plinkington, est-ce qu'on peut l'entendre comme ça également?
Bon, qu'il fasse faire des... faut faire des économies, effectivement. Là, c'est vraiment une, je dirais, tout gouvernement doit faire des économies, y compris sur le dos de la santé. Ça, ce sont des tendances qu'on a vues ces dernières années, hors période Covid, bien sûr. Il est difficile de faire un lien entre la volonté de faire des économies et les fermetures, malgré tout, même si c'est une composante. Des fermetures. Hein.
Et par ailleurs, se pose encore une fois la question de la sécurité, puisque selon les travaux menés par la chercheuse Béatrice Blondel, on sait que la mortalité néonatale est presque multipliée par 4 quand l'accouchement a lieu hors maternité et à plus de 45 km de la maternité la plus proche. Or, de 1997 à mars 2019, le nombre de femmes en âge de procréer se trouvant à plus de 45 minutes d'une maternité a plus que doublé. Ça, c'est un vrai risque, non, selon vous, Hugo Plinkington?
Alors, c'est là où il faut faire particulièrement attention et des chercheurs comme moi doivent faire preuve de pédagogie et de bien comprendre les données. C'est-à-dire que, y a-t-il vraiment un lien entre distance ou temps d'accès et maternité? Le lien, il est distendu et confondu, comme on dit dans notre jargon, par les inégalités sociales. C'est-à-dire que, lors de travaux qu'on avait faits dans les années 2014, on s'est aperçu qu'il y avait une relation en U. C'est-à-dire que, plus vous êtes proche d'une maternité, et plus vous êtes loin d'une maternité, plus la mortalité était élevée. Comment est-ce qu'on a expliqué ce phénomène? En ajustant, c'est-à-dire en prenant compte des inégalités sociales, on a pu pratiquement entièrement expliquer ce phénomène, et notamment les caractéristiques de défavorisation territoriale dans lesquelles les naissances se produisent. C'est le fait d'accoucher hors maternité de manière inopinée. C'est-à-dire, pour être trivial, sur le bord de la route, qui pose effectivement des risques. Et là, effectivement, on peut dire, plus vous êtes éloigné, plus vous avez un risque de non-planification, je dirais, de cet événement.
Vous parliez d'inégalité sociale, Hugo Plinkington, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir finalement les femmes enceintes qui le peuvent, en transférant les petites maternités dans les grandes, finalement un risque d'engorgement, de voir les femmes qui le peuvent aller dans des maternités privées et payantes, et les autres voir un suivi de grossesse moins stable et devoir se renforcer les inégalités? C'est notamment ce qu'étudie la chercheuse Clélia Gasquet-Blanchard, c'est un vrai risque?
En tout cas, c'est une crainte, effectivement, une crainte qu'il faut entendre. Je dirais qu'on n'est pas assez créatif dans les solutions que l'on peut proposer à ce sujet. La France est basée sur le modèle hospitalo-universitaire depuis les années 60. C'est-à-dire que tout tourne autour de l'hôpital, en sacrifiant quelque part la ville pour ce genre de suivi. Il y a des modèles qui existent dans d'autres pays, qui sont le modèle des maisons de naissance, qui commencent à se mettre en place. Les maisons d'attente, qu'on appelle très joliment les hôpitaux, aussi, qui commencent à être expérimentées, notamment en Bourgogne. Et d'autres modèles d'organisation des soins qui peuvent pallier.
Donc on voit que des alternatives sont possibles. On sera évidemment attentif à leur mise en place. Merci beaucoup Hugo Plinkington. Je rappelle que vous êtes géographe de la santé et professeur à l'université Vincennes-Saint-Denis. Merci à vous.
Merci.